Radio pour l'UNESCO.
Pour une culture de la paix.
Tu vois, la personne, il sourit, sa façon de sourire. Il sourit parce qu'il veut la paix. Sa façon de marcher, il marche pour la paix. Sa façon de donner, aider, c'est pour qu'il y ait la paix. Je chante pour ces gens-là, pour qu'il y ait la paix.
Radio pour l'UNESCO est une nouvelle émission mensuelle de 30 minutes réalisée par l'association Média Commun. L'idée, valoriser les actions des clubs UNESCO en France et à l'international et promouvoir les valeurs humanistes et pacifistes portées par les membres de la Fédération française pour l'UNESCO. Radio pour l'UNESCO, pour une culture de la paix. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter notre première émission qui revient sur les 60 ans de la Fédération française pour l'UNESCO qui s'est déroulée à Paris le 10 décembre 2016.
Le 10 décembre 2016, la Fédération française pour l'UNESCO fêtait ses 60 ans. 60 ans durant lesquels les clubs affiliés ont œuvré pour une éducation à la paix et à la libre expression pour un monde plus juste et solidaire. On écoute tout d'abord Yves Lopez, le président de la Fédération.
Ah ben, je suis Yves Lopez, vieux militant de la Fédération française pour l'UNESCO depuis plus de 30 ans. Je ne sais pas si c'est 31 ou 32, mais en tout cas plus de 30.
Justement, vous êtes l'actuel président de la Fédération française pour l'UNESCO. Dans un contexte global mondial d'une assez grande violence, en quoi l'éducation à la paix est-elle une nécessité et comment cela se traduit-il concrètement en actes à la Fédération?
L'éducation à la paix, l'éducation aux droits de l'homme, toutes les grandes thématiques qui sont portées par l'UNESCO, c'est la seule qui soit capable de pérenniser, je dirais, un monde d'harmonie, un monde humaniste tout simplement. Alors évidemment, le problème de l'éducation, c'est que les résultats de l'éducation sont toujours des résultats à longue détente. C'est très facile de détruire, c'est très facile d'enlever la vie, et on le voit bien notamment, là je rentre du Liban, et la Syrie est sous mes yeux quand je suis au Liban, je connais la Syrie par cœur, et je sais tout ce qu'on a détruit en Syrie, en termes de vies humaines, et en termes aussi de mémoire, de patrimoine, etc. Ça c'est extrêmement facile. Construire la paix c'est évidemment plus compliqué, et surtout c'est beaucoup plus long. Et la seule façon d'aller vers une construction pérenne de la paix ou des droits de l'homme, c'est l'éducation, il n'y a pas d'autre chemin. Et l'UNESCO a eu raison de dire... Les trois chemins qui conduisent vers l'humanisme, c'est éducation, culture et science. Voilà. Donc il faut privilégier cela, et c'est en ce sens que la tradition française des clubs UNESCO français, eh bien, elle est de dire l'accent premier, l'accent principal doit être mis sur l'éducation.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours et comment vous avez découvert les clubs UNESCO?
Alors mon parcours, j'ai découvert l'UNESCO, évidemment je connaissais. À cette époque-là, donc, quand j'ai créé mon premier club, j'étais conseiller d'éducation au lycée professionnel de Saint-Flour et j'ai construit un très grand projet d'action éducative, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, autour de le tiers-monde des années 80, je l'avais intitulé ainsi. Et mon idée était de réfléchir les élèves aux questions du développement et du mal-développement. Et de la solidarité internationale, voilà. De manière à ce que les élèves dont j'avais la charge ne passent pas leur temps, je dirais, à se regarder le nombril par rapport aux difficultés qu'ils rencontraient, mais puissent aussi regarder le monde et se dire, bon, c'est pas forcément très rose pour nous, mais c'est encore pire ailleurs, et donc il y a de bonnes raisons d'entrer dans une démarche solidaire. Et en faisant ce travail d'éducation, je me suis dit que la bonne référence, ça pouvait être effectivement l'UNESCO. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé le premier club UNESCO en disant, voilà, en réalité, c'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Je me suis dit, puisque je fais du club UNESCO, créons un club UNESCO. Donc ça a été mon arrivée à la Fédération. Il se trouve que ce projet d'action éducative a été valorisé au plus haut niveau, puisqu'on a reçu le prix des droits de l'homme de la République française. Et on a reçu ce prix aux côtés de Sud-Africains qui luttaient contre l'apartheid, d'Uruguayens qui luttaient contre la dictature, de Polonais qui luttaient aussi contre la dictature. Donc il y avait 10 prix qui étaient décernés par la République française, et nous avons reçu un de ces 10 prix. Et donc mon arrivée à la Fédération s'est faite un petit peu comme ça, de manière très forte pour le dire ainsi, et André Zuaker, qui était le président d'alors, qui est notre président honoraire aujourd'hui, a souhaité non seulement que j'entre au conseil d'administration, mais que je devienne vice-président de la Fédération. Et depuis, les choses ont continué. Bon, ensuite, je suis devenu proviseur. Quand je suis parti au lycée français de Valence, et là, j'ai marqué une sorte de parenthèse, pas par rapport au club, puisqu'il y avait aussi un club UNESCO au lycée, mais j'ai abandonné ma vice-présidence parce que les mails n'existaient pas, l'avion était cher, donc c'était un peu compliqué d'être vice-président en étant relativement loin. Ensuite, je suis parti au Liban, j'ai continué évidemment dans la dynamique Club UNESCO, puisque j'ai créé un Club UNESCO au lycée. Et quand je suis rentré du Liban, j'ai retrouvé très naturellement la maison que je n'avais jamais quittée. Et je suis rentré du Liban en septembre 2000. Et à l'Assemblée Générale de 2002, donc on m'a demandé de prendre la présidence. Et je suis donc président de la fédération depuis 15 ans.
Votre engagement militant, c'est également pour vous être sur le terrain en Afghanistan et au Liban. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire tout ça, ce sont différentes facettes, effectivement, d'un même engagement. C'est-à-dire que je reviens sur la question de l'éducation que tu me posais. Ma militance de mes années d'adolescence, c'était une militance... En plus, c'était mai 68, l'avant mai 68, l'après mai 68. Et quand j'avais ton âge, la question pour moi, c'était de faire la révolution. Voilà. Et donc, je croyais qu'effectivement, nous allions rapidement changer le monde. Je me suis rendu compte que cela prendrait du temps, que ce n'était pas aussi facile que cela, et qu'il fallait donc, je dirais, que j'inscrive ma militance dans quelque chose de plus pérenne, comme je le disais, de plus pérenne, de plus solide. Et c'est à ce moment-là, j'étais pion à l'époque, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, le seul chemin qui soit capable de garantir les choses, c'est le chemin de l'éducation. Donc je suis devenu d'abord conseiller d'éducation, puis proviseur, et en même temps, il y a eu mon engagement essentiellement à la Fédération française pour l'UNESCO. Mais être proviseur et être président de la Fédération, pour moi, c'est la même chose. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Ensuite, par rapport à l'Afghanistan au Liban, il se trouve que j'ai été proviseur au Liban, donc le lycée que je suis en train d'aider actuellement, je l'ai aidé déjà quand j'étais proviseur là-bas, mais ça pourrait être le Mali, ça pourrait être la Bolivie, ça pourrait être ton pays d'origine, l'Algérie. C'est-à-dire, chaque fois que j'ai la possibilité de me rendre utile auprès de gens qui souffrent, ben je le fais. Voilà, donc c'est un peu... Donc ça a été l'Afghanistan, parce qu'on m'a dit... Veux-tu bien aller faire, quand j'ai pris ma retraite officiellement, je l'ai prise le 31 août 2009 et le 10 septembre j'étais à Kaboul. On m'a dit, veux-tu bien donner un coup de main en Afghanistan ? Ben oui, pourquoi pas. Voilà. Ensuite, on m'a appelé au Liban, on me dit, ce lycée est en train de se casser la figure. C'est le seul pôle de laïcité dans cette région du Nord-Liban, qui est une région, défavorisée. En plus... sur la frontière syrienne, donc ils souffrent des contre-coups de la crise syrienne, j'ai encore dit pourquoi pas. Si demain on me dit est-ce que tu as encore assez d'énergie pour aller aider, je dirais, nos amis maliens ou sénégalais ou boliviens, si ma santé me le permet, je dirais encore pourquoi pas. Mais tout ça, pour moi, ce sont différentes facettes d'un même engagement.
Passons maintenant à Élise Collin-Badan, coordinatrice à la Fédération française pour l'UNESCO, qui nous parle de son parcours.
J'étais dans un club UNESCO quand j'étais au lycée. Puis après, je suis partie en double licence lettres modernes et histoire de l'art à Grenoble. Puis j'ai fait un master à la Sorbonne, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en études culturelles. Puis un deuxième master en politique culturelle à Paris 7. Et j'ai prolongé ce deuxième master autour d'un doctorat de sociologie que je réalise actuellement sur la fédération et sur l'éveil à la citoyenneté à travers l'expérience esthétique.
Et comment as-tu découvert la Fédération française pour l'UNESCO ?
Eh bien, comme je l'ai dit dans mon parcours, en fait, au lycée, il y avait un club UNESCO. Et en réalité, c'était suite au mouvement CPE. On avait été très mobilisés dans mon établissement et on avait bloqué notre lycée pendant plus de 3 semaines. Suite à ça, j'ai réalisé que j'avais une vraie soif et une vraie envie d'engagement. Et j'arrivais pas vraiment à trouver de forme adaptée. Et il se trouvait qu'il y avait un club UNESCO dans mon lycée. Et du coup, ça a été une aventure de 3 ans, de la seconde à la terminale.
Quelles sont tes missions au sein de la Fédération française pour l'UNESCO ?
Alors, elles sont vastes. On n'est pas nombreux en salariés, donc il y a beaucoup de choses à faire sur plusieurs registres. Donc déjà, ma mission principale, c'est de coordonner le réseau. C'est-à-dire que je dois assurer la liaison entre la politique établie par les élus de la Fédération, qui sont élus lors des assemblées générales, et les clubs, qui font eux aussi remonter des informations, etc. Donc assurer cette liaison et cette cohérence entre la stratégie, on va dire, plus politique, plus philosophique, et puis la réalité concrète des clubs aussi qui nourrit cette politique. Et d'autre part, je suis amenée, avec ma collègue Lola notamment, à construire des outils pour les clubs, donc il y en a plusieurs. On constitue la programmation avec les élus qui s'appelle « Les chemins de la citoyenneté », qui se décline sur toute l'année. On constitue des fiches pour chacun des événements pour donner de la matière au club et on s'occupe aussi du journal, du site, du Facebook, enfin voilà, de tout ce qui fait lien avec la fédération. Et puis, j'accompagne aussi les élus sur toute la partie plus institutionnelle, les recherches de financement, les liens avec l'UNESCO, avec les ministères. Donc voilà, plusieurs niveaux dans mon métier, dans mes missions, que ce soit avec les clubs ou dans mes tâches plus concrètes à la fédération.
Continuons sur un extrait du concert du club UNESCO du lycée Émile Duclos d'Aurillac et de l'interview d'Hugues Amalric, représentant régional de la Fédération pour l'Auvergne et Rhône-Alpes. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et comment vous avez découvert les clubs UNESCO ?
Alors, ça fait assez longtemps, depuis que notre ami Moïse Kembo est arrivé à Aurillac en 2004. C'est lui qui a initié ces clubs. Il était à cette époque-là et il est resté jusqu'à son décès le représentant de la Fédé en Auvergne. Et donc j'ai pris sa succession là, cette année après son décès au mois de juin dernier.
Quelles sont vos missions au sein de la Fédération française pour l'UNESCO ?
Donc les missions du représentant régional, c'est de s'assurer que les clubs fonctionnent bien, que de nouveaux clubs peuvent se créer. Donc il faut prendre un peu son bâton de pèlerin et aller voir dans les établissements.
Un dernier mot pour donner envie aux gens de s'impliquer dans le mouvement ?
Donc c'est un mouvement associatif et collectif plutôt. On pourrait plutôt parler d'un collectif plutôt que d'une association, puisqu'il y a des gens venant de divers horizons qui en font partie. Donc initialement essentiellement des scolaires, mais depuis déjà pas mal d'années, des clubs de ville, des clubs d'adultes, voilà, qui ont tous au fond d'eux les valeurs de l'UNESCO à défendre et à mettre en avant.
Maxime Djedj, délégué à la Fédération française pour l'UNESCO, nous parle de son parcours.
Disons qu'à 11 ans, je me suis retrouvé au lycée bilingue de Bamenda où il y avait un club des amis de la nature. Et j'ai milité dans ce club des amis de la nature parce qu'on travaillait effectivement sur l'environnement, la préservation des espaces. Et en troisième, on a eu un de nos enseignants qui nous avait dit « Tout ce que vous faites là, ça relève justement de la compétence des clubs UNESCO. Vous pouvez adhérer, vous pouvez faire adhérer votre club des amis de la nature à la Fédération Camerounaise pour les clubs UNESCO. » Donc voilà comment on fait une lettre à la Fédération Camerounaise des clubs UNESCO et on a adhéré. Et j'étais animateur de ce club en classe de première. 2 ans plus tard, je suis arrivé à l'université. Je me suis retrouvé au Burkina. J'ai recréé ce même club au Burkina Faso que j'ai animé pendant presque 7 ans. Et je suis arrivé en France. Je me suis retrouvé à Grenoble, justement. J'ai trouvé mon premier travail dans un établissement situé en quartier vraiment difficile. Et dans cet établissement, la première chose qui m'est venue en tête, c'était de créer un club UNESCO pour des enfants. Voilà.
Je voulais savoir quelles étaient vos missions au sein de la Fédération française pour l'UNESCO.
Mes missions, je pense que la Fédération française n'attribue pas des missions en tant que telles. Nous, on s'approprie les idéaux de la Fédération et autour de ces idéaux, on crée des projets. Voilà, on monte des projets. Je vais prendre 2-3 thèmes comme ça, sur lesquels j'ai travaillé avec des jeunes. Nous, on a travaillé sur la préservation de l'environnement. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire en collaboration avec des pays désertiques ? Autour de ça, on a monté un projet sur le reboisement au Burkina Faso. Nous sommes allés avec des jeunes de Grenoble, travailler avec des jeunes du Burkina Faso pendant 2 semaines à reboiser 3 hectares. C'est des projets de ce genre sur l'environnement. Et le dernier projet en date, c'était sur le genre, l'égalité homme-femme. J'avais des jeunes qui effectivement se posaient des questions dans le quartier parce que ça devenait un peu difficile pour des jeunes filles de s'habiller comme elles veulent dans le quartier. Et ils se sont dit, bon, peut-être on ira voir un peu ailleurs. On travaille avec l'association des femmes démocrates de Tunisie sur le genre. Et ça nous a permis d'aller en Tunisie voir la place des femmes dans la lutte pour la démocratie en Tunisie. Je suis allé avec cette jeune fille sur la thématique du genre. Et on est revenu, on a fait une bonne restitution. On s'est dit, mais mine de rien, les femmes tunisiennes sont aussi avancées en termes de parité dans les postes qu'en France. Moi, je le dis de ce que nous avons vécu sur place. Alors ça, c'est des thématiques qu'on s'approprie. Il y a la laïcité, plein d'autres choses comme ça. La laïcité, par exemple, c'est très, très complexe. Car ça consiste en même temps à respecter l'autre dans sa diversité. mais que l'autre ne fasse pas de sa conviction un objet de propagande, d'imposition ou quoi que ce soit. Voilà, c'est des choses que nous, on a d'autres méthodes d'aborder cela. C'est autour de la table, on projette une vidéo ou bien on choisit le thème et on débat ouvertement. Et à la fin, on arrive parfois à un consensus qui nous amène à monter un projet autour de ça.
À votre avis, quels sont les défis majeurs que doit relever la société française pour aller vers un monde plus juste ?
Moi, je pense que c'est un idéal. C'est un idéal. Et comme tout idéal, on aspire à. Et je pense ici, c'est de donner la chance à chacun de pouvoir s'épanouir là où il est. Parce que je pense qu'ici, on donnait à chacun la chance de pouvoir s'épanouir, réussir dans le domaine qu'il souhaite, je pense que ce serait vraiment déjà un pas vers cet idéal-là, cet idéal de paix. Parce que envier l'autre parfois, c'est juste peut-être parce qu'on n'a pas eu les moyens d'eux, ou on a été très peu orienté, mal accompagné, mal conseillé. C'est autant de choses qui peuvent faciliter, je dis bien faciliter, mais en même temps, à l'impossible, nul n'est tenu. Il y en a effectivement qui ne bougeront pas. Je le dis par expérience, il y en a qui ne bougeront pas. Peut-être que par effet de déterminisme social, ils ont vu les parents ne pas bouger et ils disent pourquoi faire d'efforts. Il ne faut pas se leurrer aussi. Il y en a qui effectivement ne font pas beaucoup d'efforts, mais à côté, il y en a qui en veulent vraiment. Il suffit simplement de les accompagner.
Passons maintenant à Teika Linez, présidente de la Junior Association Cœur de Rue, située à Argenteuil.
Bonjour, je m'appelle Teika Linez, je suis la présidente de la Junior Association Cœur de Rue. On organise des événements. En mars, on a fait la soirée pour les luttes contre les discriminations. Et on fait aussi des débats. Là, en janvier, on a notre débat sur la citoyenneté dédié aux jeunes. En fait, on veut savoir pour les jeunes ce que c'est la citoyenneté. Après, on fait aussi des sorties culturelles pour les ados. Donc, on est parti au Louvre, on est parti à l'Institut Goethe. Là, on va visiter l'Assemblée nationale. On veut faire le maximum de sorties culturelles pour que les jeunes de notre quartier ils aient accès à la culture.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Bon, bah, je suis allée au collège, j'ai fait le lycée. Là, je suis en première ES économique et sociale. Il y a 3 ans, on a créé Cœur de Rue au collège. Et maintenant, il y a 2 mois, on est affilié à la Fédération française pour l'UNESCO.
Et que signifie pour vous faire partie d'un club UNESCO ?
En fait, c'est important parce que je trouve que l'UNESCO, elle tient de bonnes valeurs. Je ne sais pas comment bien l'expliquer, mais je pense qu'en plus, comme on est jeune, si on adhère à ce type d'organisation, je pense qu'on pourra aller loin et améliorer les choses.
On écoute Mbaïn Kendi du Conseil des jeunes de l'UNESCO.
Alors bonjour, je m'appelle Mbaïn Kendi, j'ai 25 ans, je fais partie du Conseil des jeunes de l'UNESCO, donc ancien étudiant de Sciences Po Paris, je travaille dans les médias et j'ai un institut, un think tank franco-européen où je travaille un peu sur des questions de développement.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours et comment vous avez découvert les clubs UNESCO ?
Alors moi j'ai un long parcours déjà, j'étais très impliqué politiquement, mais pas à des politiques politiciennes. Donc, j'étais conseiller régional pour les jeunes d'Île-de-France, député européen pour les jeunes, puis je suis entré à Sciences Po Paris. Et après avoir un peu étudié et monté ma chaîne avec mes frères, KJTV, j'avais ce goût un peu toujours pour l'éducation et la culture, parce que c'est une chaîne culturelle qu'on a. Et c'est là après j'ai rejoint le club en juin 2016. Et voilà, donc c'est une belle aventure qui commence.
Et quelles sont vos missions au sein de la Fédération française pour l'UNESCO ?
Alors déjà, la Fédération française, comme on dit, c'est une fédération. Donc on est à peu près partout dans les régions, à peu près partout dans le monde. Et donc l'enjeu, c'est de monter des projets ensemble, même si on ne se voit pas, même si on n'est pas à côté, mais sur des thématiques d'éducation, de culture, et montrer vraiment en quoi on a tous des liens, nous les êtres humains, malgré nos différences et malgré ce qu'on pense être des séparations ou des barrières entre nous.
Pourquoi est-il important que la jeunesse s'engage au sein de la Fédé ?
Parce que la jeunesse, comme on dit, c'est le futur tout d'abord. Mais deuxièmement, parce que la jeunesse a subi beaucoup. On est dans un monde où aujourd'hui, un jeune peut enseigner à un adulte. On prend par exemple sur le thème de la technologie. Nous, on peut enseigner à nos parents. Et donc, on est dans l'une des seules phases de l'humanité où les générations doivent ensemble travailler pour construire un meilleur futur pour les vieux, mais aussi pour les plus âgés, je dirais, mais aussi pour les jeunes et les plus jeunes. C'est pour ça qu'il faut qu'on bosse ensemble.
Poursuivons avec Claudine Trémaud de l'association Les Chemins Buissonniers à Toulouse.
Je m'appelle Claudine Trémaud, je suis danseuse chorégraphe. Voilà, donc ça comporte beaucoup de choses. Hein, donc ça va effectivement du spectacle, mais aussi de la pédagogie, enfin pour ce qui me concerne. Voilà. Donc.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Alors mon parcours, j'ai commencé un peu avec la danse classique, même pas mal. Et puis en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer les danseurs de l'opéra, qui était alors sous la direction de Caroline Carlson en danse contemporaine. Voilà, et là-dessus, j'ai eu une formation au Centre National de Danse Contemporaine en tant que chorégraphe. Sortie de là, j'ai monté mes chorégraphies, puis j'ai aussi dansé dans diverses compagnies. Voilà, et actuellement, je m'inscris plus particulièrement, plus spécifiquement, en tout cas depuis quelques années, avec une association qui est un club UNESCO, les Chemins Buissonniers. Voilà, ouais, donc je participe à pas mal de... Bon, un spectacle sur l'histoire des écritures, et dans ce cadre-là, on a des ateliers avec un calligraphe qui fait du light painting. C'est tout le travail dans l'espace du corps pour arriver à interpréter l'écriture, on va dire. Et on travaille notamment avec des enfants en difficulté sous toute forme, mais donc forcément avec l'écriture aussi. Voilà.
Que signifie pour vous faire partie d'un club UNESCO ?
C'est-à-dire que j'en fais partie quelque part indirectement aussi, mais parce que je partage aussi ces valeurs. Hein, voilà. Et moi, je défends vraiment forcément la culture à travers l'activité artistique. Et voilà, sur ces valeurs d'égalité, de partage, de rencontre. D'autant plus qu'avec la danse, c'est aussi l'expression du corps, on triche difficilement avec. Et en plus, c'est un moyen de contact aussi. Et l'objectif, c'est quand même d'aller vers des publics qui n'ont pas accès ni à la culture scientifique, ni à la culture artistique. Donc ça peut être le milieu rural, parce que c'est quand même un milieu où la population est bien isolée, culturellement, enfin socialement aussi parfois. Puis aussi en milieu urbain, quand je parle des ce qu'on appelle les zones d'éducation prioritaires notamment. Voilà.
Du coup, à quel type de club appartenez-vous ?
Alors c'est l'association Les Chemins Buissonniers qui en fait est une rencontre entre les arts et les sciences, on va dire, voilà, qui développe des rencontres entre artistes, scientifiques, propos artistiques et propos scientifiques. Voilà. Et comment ces deux mondes se rencontrent, partagent des choses en commun, la recherche, l'enthousiasme, l'envie d'eux, l'émerveillement devant la découverte. Donc ça c'est déjà les choses communes. Et après ensuite ce sont des modes d'expression complémentaires et différents, je dirais.
Nous écoutons Amala Desarad, présidente et fondatrice du club UNESCO Terre de l'Aude.
Je me présente Amalita Desarad, je suis la présidente fondatrice du club UNESCO Terre de l'Aude. Je suis labellisée par l'ONU contre la déforestation. C'est une grande responsabilité pour moi. Ça, c'était en 2011, j'ai accepté. Ensuite, je me suis mise avec la mairie, les élus politiques. Je les ai présenté un projet et la mairie m'a octroyé trois grandes parcelles dans un parc naturel, limitrophe de la ville, ce que je voulais, pour faire ce que je voulais faire. Et on m'a laissé libre. Et j'ai planté une première forêt, j'ai créé une première forêt avec 36 écoles de la commune. On a créé une forêt d'essence méditerranéenne, économiseur de l'eau, 1500 arbres. On avait 2000 parrains, tout le monde est parrain en arbre, donc on a initié, c'était quelque chose d'innovant, qui a donné un succès fou. On avait 17, la mairie nous a mis 17 bus à disposition tous les jours pour planter deux semaines.
Des moyens importants du coup.
Voilà. Ensuite, on vient de créer un verger, 250 arbres fruitiers, et école. C'est un berger-école de réinsertion sociale intergénérationnelle pour que les gens soient des liens et que les personnes âgées transmettent son savoir-faire aux jeunes en précarité.
Du coup, que signifie pour vous faire partie d'un club UNESCO ?
Écoutez, je suis à l'UNESCO depuis 40 ans et c'est la fédération qui m'a appelée à venir à la fédération. Moi, j'étais dans les écoles, j'étais très bien. Et après, avec une réflexion de deux mois, j'ai dit oui. Et je suis depuis 2009 et je la monte haut. C'est un sigle que je défends énormément.
Pour finir, si vous aviez une baguette magique, quels seraient les trois vœux que vous réaliseriez ?
Que les gens soient sensibles à la planète, parce qu'elle est en danger. Puisque j'ai eu le dernier SMS, non pas SMS, un SOS de l'ONU, qu'il faut planter, à partir du 22 septembre, que c'est la journée de la Terre, de planter 8 milliards d'arbres dans la planète pour récupérer un peu le climat. Parce que vous savez, pour nous, les anciens, on est en train de travailler pour vous. Vous, c'est maintenant, nous transmettrons. comprenez, c'est vous qui vous allez gouverner. Et si on vous laisse une planète abîmée, si vous laisse pollution sans aucun espoir pour vous, qu'est-ce que vous allez devenir? Donc voilà, jusque moi, en tant que mère, mamie et adulte, et responsable sociale, je vais jusqu'à la fin pour avoir un meilleur monde. Donc voilà.
C'est d'accompagner tout jeune à son autonomie. Ça, c'est le premier. Il y a le concept de... Franchement, je le dis comme ça, comme je le pense, que chacun puisse s'autodéterminer. Mais vraiment, qu'on donne à chaque jeune Français sa capacité d'agir, qu'on l'accompagne dans sa capacité d'agir. C'est aussi la reconnaissance de sa singularité, dans sa diversité. Moi, c'est mon vœu, parce que même mon travail est lié à la jeunesse. Tout ce que je fais est lié à la jeunesse. Mon travail, je suis éducateur spécialisé de formation. Donc, les jeunes, pour moi, c'est un peu ma raison professionnelle et même mon enthousiasme, parce que chaque fois que je mène un projet et qu'à la restitution, je pose la question aux jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? Ils disent, on va repartir sur autre chose. Ça, c'est la satisfaction. Il n'y a pas de bagaille magique en tant que tel. C'est juste de donner un peu de soi à chaque jeune, là où il est, qu'il puisse demain s'assumer.
Pour vous, quels sont les défis majeurs que doit relever la société française pour aller vers un monde plus juste ?
Yves Lopez, président de la Fédération française pour l'UNESCO.
Je pense que le défi majeur aujourd'hui, j'ai signé pour la Fédération il y a déjà 3 ou 4 ans un texte que j'avais intitulé « Rendre la primauté aux citoyens ». Je crois qu'aujourd'hui, il y a une très grave crise du politique et du social, pour le dire ainsi. Et on s'aperçoit qu'il y a une confiscation de la légitimité citoyenne qui est faite par un monde politique qui n'assume plus ses responsabilités, avec un divorce assez effrayant entre morale et politique. Or, il y a quand la politique n'est plus porteuse de valeurs morales, quelque chose est en train de se détruire. Et la politique elle-même, je dirais, n'est plus dignement, je dirais, assumée aujourd'hui, c'est-à-dire elle est elle-même vassalisée. Et en réalité, qui commande le monde aujourd'hui, c'est l'argent. Ce sont les pouvoirs d'argent qui sont totalement transversaux. L'argent n'a pas de patrie, il n'a pas de nation. On ne sait pas qui le détient. C'est-à-dire, tout ça se joue dans l'anonymat le plus complet. Mais j'ai souvent l'habitude de dire, quand les agriculteurs manifestent encore aux grilles d'une préfecture, ils se trompent, parce qu'il n'y a plus une miette de pouvoir à cet endroit-là. Autrefois, oui, quand l'État, je dirais, avait une certaine force, et qu'un préfet dans une préfecture représentait effectivement relativement fortement cet État. Mais aujourd'hui, les centres de pouvoir ne sont plus là. C'est du côté de la bourse qu'il convient de manifester, mais pas du côté d'une préfecture. Et on le voit bien d'ailleurs dans la façon dont les agences de notation, dont on ignorait tout il y a 10 ans, se permettent le luxe aujourd'hui de noter des États-nations. Voilà, des agences de notation qui sont peuplées de gens dont on ne sait pas trop qui ils sont, à qui ils obéissent, notent les États-nations. La Grèce, vous êtes un très mauvais élève. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et en plus, dans le cas de la Grèce, c'est particulièrement symbolique parce que c'est le berceau de la démocratie. Donc voilà, que des gugus, pour le dire ainsi, qui sont embusqués dans des bureaux du côté de New York ou du côté de la City, se permettent de dire aux Grecs « Mais attendez, vous êtes de très mauvais élèves », c'est complètement inadmissible. Même si la nation grecque peut avoir des responsabilités quant à la manière dont elle a géré son destin, mais je veux dire, sa légitimité ne peut pas être contestée par des technocrates. Or, il y a cette dérive-là, il y a cette dérive technocratique très forte. On ne peut pas être ministre si on n'est pas énarque. Hein. Et puis, il y a effectivement ce pouvoir de l'argent qui s'est imposé sur le monde de manière extrêmement transversale, quels que soient les pouvoirs en place. Voilà, le vrai pouvoir est là, et je pense que c'est ce pouvoir-là qu'il faut le combattre. Il faut le combattre en particulier par l'éducation, encore une fois.
Si vous aviez une baguette magique, quels sont les 3 vœux que vous réaliseriez ?
Les 3 vœux que je réaliserais ? Liberté, égalité, fraternité.
Comment voyez-vous l'avenir de la Fédération française pour l'UNESCO ?
La Fédération continuera à démontrer qu'elle est un instrument en matière d'éducation complémentaire, en matière d'éducation populaire, qu'elle est un instrument extrêmement précieux.
Cette émission est réalisée par le Club UNESCO Média Commun. Elle est placée sous la licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Plus d'infos sur le site de la Fédération au www.ffpunesco.org. I'm
Média Commun est une association d'éducation populaire qui propose des ateliers, des chantiers et des formations à la radio et au monde numérique pour tous les âges. Média Commun pour une éducation aux médias et à la libre expression.
Radio pour l'UNESCO.
Pour une culture de la paix.